Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa première émission sur la promotion et la défense des droits humains du mois de mai. Et pour l'animer avec moi ce soir, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Alors, on va déroger un peu nos habitudes pour commencer l'émission. On va vous parler de notre...
Mais on n'a pas d'habitude.
Non, on n'a pas d'habitude.
Mais non, mais...
Enfin, pas nous. Allez, vas-y, Titi.
J'ai entendu la remarque. J'ai compris la remarque, Claire-Lise. Donc, on va vous parler de notre actualité locale, puisque notez la date, on vous l'a déjà...
Prenez vos agendas.
Voilà, on vous l'a déjà dit la fois dernière, mais notez-le effectivement ce soir à nouveau. Le jeudi 23 mai à 19h15, on organise une projection débat au cinéma Pathé à Évreux, autour d'un film qui s'appelle « Avant que les flammes ne s'éteignent » et qui est consacré aux violences policières en France. Alors, ce n'est pas un film de reportage, hein, c'est un film de, entre guillemets, de fiction, mais largement inspiré de faits réels. Et c'est un film qui n'est jamais passé, qui est sorti l'année dernière et qui n'est jamais passé à Évreux. Donc, c'est la seule et unique fois de le voir. Et c'est un film qui est soutenu par Amnesty International. Voilà. Donc, c'est une soirée surtout à ne pas manquer. Le 23 mai, 19h15, au cinéma Pathé. Alors, ne quittez pas non plus l'antenne avant 20h, parce qu'on va vous parler effectivement plus longuement de ce film, de ce qu'il contient et de ce qu'il raconte, etc., etc., dans la dernière partie de l'émission. Donc, ne quittez pas l'antenne. Et donc, pour commencer cette émission, on vous avait parlé longuement la fois dernière du rapport annuel et mondial publié par Amnesty International au mois d'avril, qui fait l'état et malheureusement le recul des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux à travers le monde. Et ce soir, il y a Edith qui va vous parler plus spécifiquement de différents reculs de ces droits ici en France.
Oui, c'est ce qu'on avait évoqué à la dernière radio, mais ça faisait trop d'informations. Mais c'est vrai que c'est la première fois dans un rapport d'Amnesty où la part état du monde en France, enfin état du monde, état de la France dans le monde, est aussi importante et aussi inquiétante. Donc je ne vais pas tout vous lire l'article, vous pouvez encore le retrouver sur le site d'Amnesty, mais je vais parler des grands points. Donc c'est Nathalie Godard, la directrice de l'action Amnesty International France, qui a écrit cet article. Et donc ce qu'elle commence à dire, c'est: jusqu'où ira l'érosion des droits et des libertés en France? Jusqu'où le recul? C'est la question que nous nous sommes posée en rédigeant le chapitre sur la France du rapport annuel d'Amnesty International. Et en jetant un œil vers le passé, nous ne pouvons que déplorer le fait que la dégradation des droits humains en France a été constante depuis une vingtaine d'années. Chaque année, nous alertons sur ces reculs. Et pourtant, l'année suivante, les constats s'aggravent. Jusqu'où? Alors voilà trois sujets majeurs d'inquiétude qui ressortent de notre analyse sur les droits humains en France: l'état des libertés, les discriminations et les risques pour l'état de droit. En France, les libertés reculent. L'impératif sécuritaire semble avoir pris le dessus sur la protection des libertés qui sont trop souvent restreintes au nom du besoin de sécurité. C'est d'autant plus vrai depuis que des attentats ont endeuillé la France et que la lutte contre le terrorisme justifie des mesures et des pratiques illégales en droit international. Donc on peut noter des lois attentatoires aux libertés votées sous pression d'un narratif ultra-sécuritaire. Depuis 2015, les lois sur l'état d'urgence, sur la loi de la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui a entériné des mesures censées être provisoire, la loi sécurité globale, la loi séparatisme, celle sur le renseignement, etc. Toutes ont inclus des mesures attentatoires aux libertés comme autant de coups de canif législatifs dans l'édifice des droits fondamentaux. Et cette liste s'est allongée en 2023 avec la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques instaurant la vidéosurveillance algorithmique. Tout porte à croire que l'intention sera, comme précédemment, de la pérenniser après la phase d'expérimentation. Et ce type de technologie de surveillance présente de vrais risques pour les droits humains. La loi Asile et Immigration, votée en novembre, était aussi essentiellement basée sur un narratif ultra-sécuritaire qui semble justifier toutes les entorses aux droits humains, d'autant plus facilement qu'il s'agit de personnes étrangères. Alors un autre point, répression des manifestations et usage excessif de la force. 2023 a été l'année de grandes manifestations populaires, mais aussi d'interdictions abusives de manifester, notamment en janvier contre la réforme des retraites, en juillet suite aux troupes qui ont suivi la mort du jeune Naël, en octobre, en soutien aux droits des Palestiniens. Lors des manifestations contre la réforme des retraites, nous avons dénoncé les arrestations abusives et un recours excessif à la force dans le maintien de l'ordre. Des armes dangereuses, dites à létalité réduite, ont cette année encore mutilé des manifestants. D'usage excessif de la force, il a également été question le 27 juin dernier lorsque Naël a été tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Amnesty a dénoncé un homicide illégal et a demandé l'abrogation de l'article 435.1 du Code de la sécurité intérieure qui élargit le recours à la force dans le cadre du refus d'obtempérer. En France, un autre point, les discriminations persistent, le déni du gouvernement aussi. Le 30 juin dernier, le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies déclarait trois jours après la mort de Naël, qui était d'origine algérienne, tué lors d'un contrôle routier. C'est le moment pour la France de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination parmi les forces de l'ordre. Ce faisant, elle reprenait les critiques émises au moment de l'examen de la France devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies en mai, mais aussi celle de très nombreuses autres institutions ou ONG des droits humains qui alertent depuis des années. La réponse officielle de la France a été immédiate. Toute accusation de discrimination systémique parmi les forces de l'ordre est totalement infondée. Contrôle au faciès. Ce manque de reconnaissance atteint aussi la plus haute juridiction administrative. En octobre dernier, le Conseil d'État a rendu sa décision concernant...
Tu vas y arriver.
Ben oui, je vais y arriver, oui. Vas-y. Parce que je vais aller jusqu'au bout.
Prends ton élan.
L'action de groupe intentée par Amnesty et 5 autres organisations de la société civile pour mettre fin au contrôle au faciès. Mais c'est le Conseil d'État qui, tout en reconnaissant que ces contrôles discriminatoires n'étaient pas des cas isolés, a refusé de reconnaître leur caractère systémique et a refusé d'imposer à l'État des mesures pour lutter contre ces contrôles discriminatoires. Bon, la banalisation du discours stigmatisant les personnes musulmanes. Le déni, c'est aussi celui qui touche la banalisation galopante des discours stigmatisant les personnes musulmanes en France. La loi séparatiste avait achevé d'installer dans le débat public un continuum entre islam, voile, islamiste, terroriste. Aujourd'hui, les femmes et les filles qui portent le voile continuent d'être pointées du doigt collectivement, sans considération pour la diversité de leur parcours et profil, ni pour la liberté de religion et d'expression. Il est crucial non seulement pour les pouvoirs publics, mais aussi pour l'ensemble que la société ouvre les yeux sur les impacts délétères des discriminations et des discours racistes. La multiplication effrayante des actes antisémites en fin d'année dernière doit inciter tous et toutes à un réveil. Il est urgent de lutter collectivement contre toute forme de rejet, d'essentialisation, de racisme qui abîme les liens sociaux et viole les droits de la personne concernée. L'État a la responsabilité de protéger et d'assurer le respect des droits sans amplifier les divisions et les stigmatisations de certains groupes. Alors, le troisième sujet d'inquiétude d'Amnesty, c'est celui d'un point de bascule dont nous semblons nous approcher de plus en plus dangereusement. L'état de droit fragilisé. Ce point de bascule, c'est celui qui mènerait vers une remise en cause de l'état de droit et de ce qu'il permet de garantir en termes de droits fondamentaux, de sécurité juridique pour l'ensemble des citoyens. La loi d'asile et l'immigration, un recul historique de la France, voté par une majorité des parlementaires en décembre dernier, a été un choc pour les militants des droits humains. Ces principes sont mis en cause aujourd'hui de plus en plus. C'est le cas dans les camps. Des responsables politiques appellent ouvertement à ne pas respecter le droit international ou une décision de justice. C'est aussi le cas quand le ministre de l'Intérieur déclare publiquement qu'il est acceptable de ne pas respecter une décision de la Cour européenne des droits de l'homme si cela permet d'expulser un ressortissant ouzbek. Cela contribue à une remise en cause dangereuse de la protection que le droit international devrait nous procurer à toutes et tous et qui est à l'œuvre aussi dans les enjeux internationaux. Et l'état de droit dépend aussi de la vitalité des contre-pouvoirs, pouvoirs judiciaires, les médias, mais aussi la société civile dans son ensemble. Et on note aussi des atteintes répétées aux libertés associatives qui sont à l'œuvre depuis plusieurs années. Cela est à cet égard particulièrement inquiétant. La dissolution d'associations devrait être un dernier recours exceptionnel et soumise à la décision d'un juge. C'est devenu une arme dégainée trop vite et qui plane comme une menace. Les critiques contre les associations par les responsables politiques se sont multipliées. Accusées d'être complices des passeurs alors qu'elles sauvaient la vie des vies en mer, ou de faire de l'écoterrorisme alors qu'elles alertaient sur le climat. En 2023, on a vu des menaces sur les subventions de la LDH, des attaques contre le planning familial, des critiques en ligne contre le travail de la CIMAD et des accusations en tout genre contre Amnesty International. Cette répétition est inquiétante. Si nous ne sommes pas encore au point de bascule, chacune de ces atteintes nous en rapproche et contribue à un état de droit dégradé, affaibli, en danger, comme le sont nos droits. En France aussi, il faut les protéger. Voilà.
Voilà, c'est un bilan un peu inquiétant, ouais. Effectivement.
Mais qu'il faut aussi savoir et se redire et pouvoir avoir envie de militer avec nous, hein, je pense.
C'est tout à fait ça, effectivement. Si on ne se bouge pas, encore une fois, le recul des droits, on sait où ça commence, on ne sait jamais où ça s'arrête. Et pour compléter ce que tu viens de dire, on va plus développer, ce n'est pas nous, c'est une permanente d'Amnesty France qui s'appelle Katia Roux. On va vous passer sur l'interview qu'elle a donnée sur la radio France Internationale à la fin du mois d'avril. Et elle pointe du doigt les dangers de l'intelligence artificielle qui va être très développée en France, à Paris, à l'occasion des Jeux Olympiques. Et donc on
la surveillance algorithmique, peut-être.
C'est ça. Et donc on vous passe ses commentaires tout de suite et on se retrouve juste après.
8h19 à Paris, c'est l'un des grands dangers mis en avant cette semaine par Amnesty International dans son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde. Le développement rapide de l'intelligence artificielle risque d'accélérer l'affaiblissement de l'état de droit, c'est ce qu'écrit l'ONG, qui consacre une partie de son analyse aux dangers liés à l'IA et de manière plus globale aux technologies. Notre invité ce matin pour en parler est chargé de plaidoyer liberté, spécialiste de ces questions au sein de la branche française d'Amnesty International. Katia Roux, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI. Un rapport publié après une année 2023 marquée par des avancées technologiques majeures, notamment en termes d'intelligence artificielle. Si votre organisation choisit aujourd'hui de mettre en avant cette thématique, est-ce parce que l'année qui vient de s'écouler constitue un tournant ?
L'année qui vient de s'écouler constitue un tournant. On a pu constater que désormais, les systèmes d'intelligence artificielle, donc d'IA, étaient présents dans quasiment tous les aspects de notre vie. Ils sont souvent présentés comme des solutions techniques pour répondre soit à des questions sécuritaires, soit à des problèmes structurels comme la pauvreté, la discrimination. Eh bien, nous, on a constaté que bien souvent, ces systèmes venaient alimenter les discriminations, les inégalités, le racisme et pouvaient porter atteinte aux droits humains.
Avec la notion, évidemment, que ce ne sont pas des intelligences artificielles magiques, mais qu'elles sont codées par des humains avec leurs biais. Alors, le rapport d'Amnesty International et les travaux que vous menez au quotidien sur ce sujet insistent notamment, pour rentrer dans le détail, sur les dangers que l'intelligence artificielle représente en termes de surveillance. Vous soulignez un usage accru des technologies par les États pour le maintien de l'ordre. En termes de systèmes employés et de pratiques, de quoi parle-t-on ?
Alors très concrètement, ce sont par exemple des systèmes de reconnaissance faciale, des systèmes de reconnaissance des émotions. On a constaté que de plus en plus de gouvernements, partout dans le monde, se tournaient vers ces technologies pour répondre à des questions sécuritaires. Donc ça peut être lors de grands événements sportifs, ça peut être lors de manifestations. Très concrètement, la police new-yorkaise, par exemple, a révélé l'année dernière qu'elle utilisait la reconnaissance faciale lors de manifestations du mouvement Black Lives Matter. On sait que ça peut être également utilisé pour contrôler la circulation des populations comme dans les territoires palestiniens occupés où la reconnaissance faciale sert à accepter ou non le passage des Palestiniens et Palestiniennes au checkpoint. On sait que ça a été utilisé en Inde, au Royaume-Uni également. En France, on n'y est pas encore avec la reconnaissance faciale, mais avec la loi JO, on passe une étape avec la vidéosurveillance algorithmique, donc c'est vraisemblablement l'étape d'après. On le voit, il y a vraiment une volonté de recourir à ces technologies pour répondre aux enjeux sécuritaires qui sont légitimes d'une part, mais avec des risques extrêmement grands pour les droits humains d'autre part.
J'aimerais m'arrêter un instant sur ce que vous disiez. Vous parliez de la France et des Jeux Olympiques avec cette légalisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la vidéosurveillance. C'est la première fois qu'un pays de l'Union européenne le fait, soit dit en passant. Il ne s'agirait pas, vous le disiez vous-même, de reconnaissance faciale. Alors, quelle menace représente le système qui est en train d'être mis en place en France ?
Alors, le système qui va être développé, qui est d'ailleurs déjà testé avec la loi JO, c'est de la vidéosurveillance algorithmique. Donc concrètement, ça veut dire que ce sont des algorithmes qui vont repérer sur les flux issus des caméras de vidéosurveillance des comportements suspects, des situations anormales pour alerter les agents de sécurité. Ça comporte déjà des risques en matière d'ingérence dans la vie privée, l'effet dissuasif de cette surveillance et puis potentiellement des discriminations. Ça pourra peut-être permettre de cibler tel ou tel groupe de population en fonction des situations qu'on va repérer. Mais ce sur quoi on alerte et ce qui nous inquiète véritablement, c'est la porte ouverte à l'utilisation de technologies toujours plus intrusives. On le sait, avec ces systèmes, ça marche par paliers. Là, on vient de passer une marche et ce qui nous attend probablement à la prochaine, ce sont les systèmes de reconnaissance faciale, ce sont les systèmes de reconnaissance des émotions qui sont déjà expérimentés en France, dans beaucoup de villes. Et aujourd'hui, il est très important de pouvoir l'interdire avant qu'il soit déployé, parce qu'après, c'est toujours trop tard.
Sur la situation au Moyen-Orient, vous parliez de la reconnaissance faciale pour surveiller les Palestiniens, notamment au checkpoint. Il y a aussi des enquêtes de presse qui montrent depuis le 7 octobre que l'IA est utilisée pour identifier des cibles dans la bande de Gaza. Ça nous donne un aperçu de ce que serait, de ce qu'est l'utilisation de l'IA dans une guerre. Il faut être particulièrement vigilant sur ce point-là.
Ça montre bien que l'IA et les différents systèmes peuvent être utilisés comme des armes numériques. On l'a vu notamment avec le logiciel espion. Et là, Israël était encore une fois en première ligne avec le logiciel Pegasus. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés abusivement pour cibler de manière disproportionnée, par exemple, des membres de la société civils, des journalistes, des défenseurs des droits humains, des avocats, des opposants politiques, les personnes qui dérangent, et pour pouvoir effectivement mieux les contrôler, voire les faire taire. C'est ce qui se joue, et l'année dernière a encore une fois montré que les gouvernements utiliser ces outils-là pour faire taire les membres de la société civile.
Un mot aussi sur un autre point que vous évoquez dans votre rapport, l'utilisation de l'intelligence artificielle aux frontières européennes. De quoi s'agit-il ?
Absolument. Les États, de plus en plus, et notamment les États membres de l'UE, mais aussi les États-Unis, utilisent un certain nombre de systèmes pour plusieurs choses. Un exemple, iBorder Control, c'est un système qui a été financé par l'UE, qui est testé en Grèce, en Lettonie, en Hongrie. Et concrètement, c'est un système qui repose sur un détecteur de mensonges. Mmh. Et donc concrètement, le système d'IA va analyser lors d'un interrogatoire, quand une personne veut franchir une frontière, chaque micro-expression du visage pour déterminer si la personne répond honnêtement ou pas. Si elle répond honnêtement, elle va recevoir un code et pouvoir passer. Dans le cas contraire, elle va être renvoyée vers d'autres personnes. Donc ça peut littéralement déterminer le passage d'une frontière d'une personne qui demande l'asile.
Il y a cette utilisation par les États de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Il y a aussi le rôle que jouent les plateformes. Et vous soulignez un danger, celui de la désinformation d'une part, mais aussi des contenus haineux relayés par les algorithmes. Vous citez notamment l'exemple de l'Éthiopie et du Tigré où le conflit a fait, on le rappelle, plus de 600 000 morts en 2 ans selon l'Union africaine. De quoi les plateformes sont-elles accusées dans ce cas précis ?
Les plateformes sont accusées de contribuer, alors là en l'occurrence, à des violences ethniques. En Éthiopie, et il s'agit de Meta, comme elle avait déjà contribué à des violences ethniques au Myanmar il y a encore quelques années contre les Rohingyas, ce sont des plateformes qui permettent, voire qui amplifient le déversement de haine en ligne, puisque leurs algorithmes de recommandation vont booster littéralement les contenus les plus violents. Non pas forcément pour directement cibler telle ou telle population, mais parce que c'est leur modèle d'activité. Les plateformes fonctionne dans le cadre d'une économie de l'attention. L'idée, c'est de maintenir les personnes le plus longtemps possible en ligne, coûte que coûte. Et donc, si c'est en promouvant des contenus qui sont incendiaires, qui sont clivants, qui sont extrêmes, parce que ce sont les contenus qui font réagir, ils vont le faire. Et donc, effectivement, on a documenté en Éthiopie que les algorithmes de Meta sur la plateforme Facebook amplifiaient les messages haineux et pouvaient avoir des conséquences dramatiques dans la vie réelle, c'est-à-dire légitimer des violences contre un groupe de population.
Pour en revenir à l'intelligence artificielle, l'Union européenne a approuvé début février un tout premier règlement sur l'IA, qui impose notamment aux acteurs d'être transparents sur les données qu'ils utilisent pour entraîner leur programme. La construction de ce texte ne s'est, ceci dit, pas faite sans difficulté. La France et d'autres pays, notamment l'Allemagne, ont été chercher des concessions pour protéger les start-up qui travaillent dans ce domaine. Quel regard portez-vous sur ce texte ?
Alors, on considère que c'est une occasion manquée. On avait effectivement beaucoup d'espoir. C'est quand même la première législation au monde qui vise à encadrer les systèmes d'IA, tous les systèmes d'IA en fonction des risques et notamment de l'impact sur les droits humains, ce qui est une bonne chose. Mais on a vu petit à petit le texte être détricoté. Là où, par exemple, le Parlement européen poussait des obligations ambitieuses comme des interdictions de la reconnaissance faciale, par exemple, les États membres de l'UE et la France en première ligne ont tout fait pour affaiblir les obligations, ont tout fait pour affaiblir l'encadrement et les interdictions. En, par exemple, intégrant des exceptions liées à la sécurité nationale. C'est-à-dire qu'un système pourrait être interdit parce que dangereux pour les droits humains, comme la reconnaissance faciale, mais ce sera possible pour les forces de l'ordre, les forces de police, de les utiliser. Donc, c'est une occasion manquée de véritablement protéger les droits humains.
Il nous reste moins d'une minute, Katia Roux. Tant que le développement de l'intelligence artificielle est piloté par des acteurs privés avec des intérêts d'abord économiques, est-ce qu'une réelle régulation vraiment protectrice est possible ?
Alors, elle est compliquée, mais elle est nécessaire. Effectivement, on n'attend pas des acteurs qu'ils s'auto-régulent. Leur intérêt, c'est plutôt le profit. On nous dit que la régulation freine l'innovation. Aujourd'hui, poser des cadres clairs qui respectent les droits humains, ce serait ça le véritable progrès.
Katia Roux, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargée de plaidoyer liberté à Amnesty International, spécialiste des questions de nouvelles technologies. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur RFI ce matin. Très bonne journée.
Merci.
Voilà, donc c'était l'interview de Katia Roux sur les problèmes que pose la généralisation de l'intelligence artificielle et à travers les vidéosurveillances. Voilà, et on va enchaîner tout de suite avec de la musique et on se retrouve juste après. retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International. On vient d'entendre un morceau choisi par Claire Lise. C'est Claire Lise qui a choisi la musique ce soir.
Nothing Else Matters de Metallica. Voilà. C'est un morceau que j'aime beaucoup pour des raisons personnelles et puis j'avais envie de le partager aujourd'hui.
Et ben tu as bien fait. Voilà. Donc et c'est toi aussi qui va continuer
à
animer les rubriques de l'émission.
Alors, attention, là, je vais vous parler de notre manifeste pour les élections européennes, puisque, en fait, vous le savez, tous les 5 ans, les citoyens et citoyennes européens élisent les représentants ou représentantes qui défendront leurs intérêts au Parlement européen. Donc, les élections européennes jouent un rôle décisif et façonnent la vie et l'avenir de millions de personnes. Donc du 6 au 9 juin 2024,
et nous c'est le 9,
les citoyens et citoyennes européens et européennes feront entendre leur voix et décideront de la voie qu'empruntera l'Union européenne. Pour dessiner un avenir plus juste, durable et florissant, l'Union européenne doit placer les droits humains au cœur de son action. Le manifeste d'Amnesty International pour les élections européennes définit des objectifs clés et des mesures relatives à la défense des droits humains en matière de politique intérieure et d'affaires étrangères. Les appels et les engagements définis dans ce document permettront d'informer et de guider les candidats dans l'élaboration de leur programme. Ce manifeste constituera également un guide essentiel pour les électeurs, les électrices, qui souhaitent voir l'Europe défendre les droits de chaque citoyen et citoyenne et mettre en avant la défense des droits humains partout dans le monde. Alors, je vais vous décrire un petit peu parce que c'est vrai que en fait il y a plusieurs thèmes qui sont engagés dans ce manifeste. Premièrement, c'est ancrer solidement l'Union européenne dans la protection des droits humains de tous et de toutes. Protéger les personnes réfugiées ou migrantes au sein de l'Europe solidaire et engagée en faveur des droits humains. Placer la protection des droits humains dans le monde au cœur de la politique étrangère de l'Union européenne. Et prendre des mesures urgentes et essentielles pour agir contre le changement climatique. Alors, d'abord, la première partie, donc ancrer solidement l'Union européenne dans la protection des droits humains de tous et de toutes. Amnesty International attend de l'Union européenne qu'elle garantisse à chacun ou à chacune ses droits et la possibilité de s'exprimer librement dans une société égalitaire et inclusive. Donc faire de l'égalité une réalité. L'Union et ses États membres doivent améliorer la protection des droits humains en politique et en pratique en répondant aux difficultés que rencontrent les femmes et les filles, les personnes LGBT, les personnes racisées, les migrantes, les demandeurs et les demandeuses d'asile et les travailleurs et travailleuses du sexe. Ils doivent faire adopter des textes au niveau de l'Union européenne pour protéger les personnes contre les discriminations fondées sur l'âge, le handicap, la religion ou les convictions et l'orientation sexuelle en matière d'accès à une protection sociale, à des avantages sociaux et à l'éducation ainsi que de fourniture de biens et services tels que le logement. Mettre en place des normes pour lutter contre la discrimination et protéger de la violence. L'Union européenne doit être garante de l'accès aux services, et notamment aux services de santé, au logement, à l'éducation et à la justice pour toutes les personnes en Europe, en fonction des besoins et sans aucune discrimination. Elle doit aussi protéger les défenseurs et défenseuses des droits humains, la société civile et les personnes qui manifestent pour défendre les droits humains. Donc ils doivent protéger l'espace civique, notamment en garantissant les libertés d'association, d'expression et de réunion pacifique. Ils doivent favoriser la contribution des défenseurs des droits humains et de la société civile à des prises de décision. Protéger les droits humains et l'état de droit, ils doivent s'engager à protéger donc les droits fondamentaux en garantissant la pluralité, l'égalité, la diversité, le respect de la dignité humaine, ainsi que la transparence et l'obligation de rendre des comptes de la part des États. Ces critères représentent les pierres angulaires de l'état de droit. Veiller à ce que toute personne dispose d'un accès égal à la justice, à des procédures équitables, poursuivre le combat en faveur de l'état de droit partout en Europe et renforcer la législation européenne sur l'intelligence artificielle pour garantir la protection et la promotion des droits des personnes les plus touchées par les systèmes d'intelligence artificielle. Bon, je ne vais pas développer tout, hein, mais là, c'était par rapport à la protection des droits fondamentaux. Protéger les personnes réfugiées ou migrantes au sein d'une Europe solidaire et engagée en faveur des droits humains. Donc Amnesty International attend de l'Union européenne qu'elle s'engage à faire respecter les droits des personnes réfugiées ou migrantes, et qu'elle applique des mesures équitables qui permettront de partager la responsabilité de la protection des personnes en quête de refuge dans l'Union européenne et partout dans le monde. La législation européenne relative à l'asile et aux questions liées à l'immigration doit se fonder sur des valeurs de solidarité et de respect des droits humains. L'Union doit mettre en place des conditions d'accueil adéquates et développer des voies sûres et légales pour permettre aux personnes d'atteindre l'Union européenne, d'y vivre et d'y travailler. Donc juste sur ce thème-là, je voulais reprendre une ou deux idées. C'était par exemple que le pacte sur la migration et l'asile de l'Union européenne, dont je vous ai parlé la dernière fois, s'il est adopté, il doit respecter les normes les plus strictes en matière de droits humains. Le Parlement européen et la Commission européenne doivent surveiller les politiques et les pratiques des États et les inciter à garantir leur conformité en matière de droits humains. Ils doivent veiller à ce que la protection des droits humains et des personnes réfugiées constitue un critère prioritaire pour l'attribution de financement. Ils doivent investir dans des systèmes d'asile efficaces, équitables et dotés de ressources suffisantes et veiller à ce que les personnes réfugiées disposent d'un logement adéquat et digne, sans discrimination, quel que soit leur pays d'origine et la manière dont elles sont arrivées. Il y a des mécanismes de surveillance des frontières indépendants et transparents doivent être déployés. Et l'Union et ses États doivent mener des missions de recherche et de sauvetage en Méditerranée et prendre toutes les mesures nécessaires pour venir en aide aux personnes en mer. Les ONG menant des opérations de sauvetage en mer ne doivent pas être entravées dans leurs activités. Et pour une Union européenne qui garantit les droits humains, pour tous et toutes sans discrimination, y compris pour les personnes réfugiées ou migrantes, eh ben, l'Union doit garantir l'accès à la santé, au logement, à l'éducation, à l'ensemble de la population européenne, selon les besoins et sans aucun critère de discrimination. Les normes de l'Union européenne sur le travail décent doivent être renforcées. Elles doivent garantir que les travailleurs et les travailleuses migrantes bénéficient de permis, de conditions d'emploi décentes, ainsi que d'une protection complète en matière de droits sociaux et en vertu du Code du travail. Et les institutions de l'Union européenne doivent s'assurer que les États respectent les normes européennes et internationales concernant les réfugiés, les personnes migrantes et les personnes racisées. Voilà. Alors, je ne vais pas tout développer, mais sur ce thème-là, il y avait beaucoup de choses. Placer la protection des droits humains dans le monde au cœur de la politique étrangère de l'Union européenne. Donc, Amnesty appelle l'Union européenne à faire des droits humains, de la justice et de l'obligation de rendre des comptes pour les violations des droits humains une priorité dans le cadre de ses relations avec les pays tiers et dans tous les espaces d'échange multilatéraux. Pour bâtir une société où chacun peut disposer de ses droits, l'Union doit renforcer ses engagements pour le respect, la protection effective et l'exercice plein et entier des droits humains à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières. Alors, je ne vais pas tout développer non plus parce que c'est énorme, mais je vous invite à pouvoir aller lire ce manifeste parce qu'il est vraiment très bien fait et il est complet. Et donc, prendre des mesures urgentes et essentielles pour agir contre le changement climatique. Donc, Amnesty appelle l'Union européenne et ses États membres à adopter des mesures urgentes et essentielles contre le changement climatique en vue de protéger les droits des générations présentes et futures. Il est grand temps que l'Union respecte ses engagements et redouble d'efforts pour amorcer une transition écologique juste et indispensable. Je vais faire juste une petite digression. Quand on entend parler en ce moment des élections européennes, vous l'avez vu, le débat est orienté beaucoup par rapport à la question de l'immigration et on ne parle quasiment absolument pas de lutter contre le changement climatique et de trouver des solutions. C'est absolument pas le débat qui a lieu en ce moment, alors que c'est sans doute l'urgence la plus
alors
absolue.
Alors qu'on sait qu'en plus, ce sont des associations qui vont être présentes au niveau de l'Europe. Et donc, quand on vote pour les Français qui se présentent, il faudra avoir une vision un petit peu plus généraliste des autres pays
et
se rendre compte quelles vont être
les
conséquences et puis les groupes qui vont se former.
Juste en complément, dans cet article-là, on insiste beaucoup aussi sur le fait que l'Union et les États membres doivent tenir leurs engagements d'abandonner progressivement les combustibles fossiles et de réduire les gaz à effet de serre. Ils doivent garantir une transition énergétique véritablement écologique, fondée sur le respect des droits humains à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. Et surtout, protéger et favoriser le travail des défenseurs des droits environnementaux. Ils doivent reconnaître les défenseurs des droits environnementaux comme des acteurs clés du changement. Et l'Union doit apporter son soutien à l'ensemble des personnes, groupes et organisations à l'intérieur et à l'extérieur des frontières européennes qui exigent la justice climatique et se battent pour le droit à un environnement sain, propre et durable pour tous et toutes, malgré des restrictions croissantes qui leur sont opposées et les menaces qui pèsent sur leur vie. Et donc l'Union et ses États doivent reconnaître pleinement les conséquences sur les droits humains de la crise environnementale et climatique. Elle doit pour cela garantir le droit à un environnement propre et sain et durable. Voilà. Donc c'est important que vous preniez le temps de réfléchir à tous ces thèmes et que lorsque vous irez voter le 9 juin, on rigolait parce que tout à l'heure, pour préparer l'émission, j'étais sur le site de la Belgique et puis j'étais un peu endormie. Je me dis, oh tiens, c'est rigolo, ils votent le même jour que nous, mais forcément, c'est les élections.
C'est l'Europe.
Voilà, fallait tant que ça remonte à mon petit cerveau. Et donc, ces élections européennes, elles jouent un rôle décisif dans la forme que prendront la vie quotidienne et l'avenir de millions de personnes. À l'heure où les principes fondamentaux relatifs aux droits humains et l'état de droit sont menacés dans la région, ce scrutin est un moment crucial permettant aux gens de faire entendre leur voix et de définir l'orientation que prendra l'Union européenne. Et ce manifeste définit des objectifs clés et des mesures relatives à la défense des droits humains en matière de politique intérieure et d'affaires étrangères de l'Union européenne. Voilà, pour dessiner un avenir plus juste, durable et florissant, l'Union européenne doit placer les droits humains au cœur de son action.
Et les gens doivent voter pour les personnes qui représentent et qui reprennent le mieux ce que tu viens de dire. Et ça va être,
pas coton.
Voilà, merci.
Effectivement, il faut bien réfléchir pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, bien réfléchir quand vous allez glisser votre bulletin de vote pour ces élections, donc le 9 juin. C'est le 9, hein, c'est ça?
C'est carrément le 9.
Et donc, voilà, ne pas se tromper.
Il y en a, c'est le 6.
Ne pas se tromper. Je crois que, Clarisse, parce que la pendule avance, comme à chaque émission.
C'est toujours à toi.
Et donc,
C'était pas les deux de suite.
Non, c'était.
Donc, c'était pas à moi du tout.
Non. Ah non, pas Clarisse, Edith.
Voilà, il s'embrouille.
C'est
pour ça que je ne suivais plus.
Pourtant, t'as un petit conducteur.
T'avais quelques mots à nous dire sur le Brésil, je crois.
Alors, le Brésil, oui. Donc, on a vraiment beaucoup d'articles un peu de fond. Donc, sur l'avant-dernière chronique, il y a eu plusieurs articles sur la situation au Brésil. Et j'en ai un qui m'a bien plu. Donc, c'est comment on peut bien se servir des réseaux sociaux. Et c'est ce que font les Indiens au Brésil. Alors, on va dire depuis que Lula est revenu au gouvernement, hein, quand même, parce que l'ami Bolsonaro avant n'a pas du tout aidé. Et donc, il y a maintenant dans le gouvernement des représentants pour les Indiens, et il y a aussi des députés. Donc, eux, les députés, il est temps. Il est fini le temps où d'autres parlaient à la place des Indiens. Dans un pays où toute transaction se fait par un téléphone portable, la voix des Indiens d'Amazonie est devenue depuis 5 ans publique et libre. Elle n'est plus filtrée par les Blancs, même bien intentionnés. Et donc c'est Celia Xariaba, une jeune députée du Minas Gerais, donc une région du Brésil, qui nous explique ça. Beaucoup de nos ennemis disent que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et cela prouve que nous ne sommes plus des Indiens, mais nous y avons notre place comme tout citoyen. Et vivre en forêt n'empêche pas de se servir de l'importance d'Instagram comme outil politique. Alors nous avons maintenant plus besoin de personnes pour faire notre récit. C'est le nôtre et on ne peut plus nous le voler. Donc je pense que c'est vraiment des réflexions intéressantes par rapport aux réseaux sociaux. Donc ils ont, elle a beaucoup de personnes qui la suivent sur Instagram, sur Facebook. Et il y a aussi le ministre des Peuples indigènes qui aussi a compris cette puissance. Les commentaires de nos ennemis sont parfois très durs, très racistes, mais plus je suis attaquée et plus je suis pédagogue. J'ai réalisé que c'était une façon de décoloniser aussi les réseaux sociaux. Comme dans le monde réel, il faut lutter pour décoloniser les esprits. Notre culture est compatible avec le numérique, comme celle des Blancs. Donc il y a aussi une représentation de la vie quotidienne des Indiens, avec les moments importants, la pêche, la chasse, les naissances, les déplacements en pirogue, les grandes fêtes rituelles, c'est filmé, documenté, les messages sont partagés. Bon, au Brésil, c'est aussi ceux du foot qui sont partagés et qui sont très importants. Les Indiens, à l'instar de tous les Brésiliens, ont assimilé le foot comme vecteur de la culture, de l'identité, de la popularité. Pour la secrétaire d'État, c'est à Pita Gari, lorsqu'Internet est arrivé dans les villages, cela nous a ouvert des possibilités. L'idée selon laquelle l'Indien est statique depuis 500 ans et que sa culture n'a pas changé a été secouée. Bon, alors, il y a aussi des zones blanches encore dans certaines régions, des peuples ou des villages où ils ne veulent pas donner des images parce qu'il y a aussi le danger des orpailleurs. Donc là, c'est quelque chose qu'ils ont bien compris aussi. Les femmes, elles sont vraiment aussi intéressées à tout ce qui était réseaux sociaux. Maintenant, les jeunes sont fiers de montrer les tatouages traditionnels. Donc, y a la puissance des moyens de communication est vraiment importante. Et Seita Pitagari insiste. C'est une question d'indépendance. Nous pouvons témoigner de ce que nous pensons et comment nous vivons, ce que nous discutons au sein de nos territoires et de nos priorités. Nous ne dépendons plus de la vision d'un journaliste ou d'un ethnologue qui prennent notre image et la publient sur les réseaux sociaux avec leurs commentaires. Donc il y a aussi juste, je fais rapidement, à un moment où c'était quand Bolsonaro était encore au pouvoir, il s'est lancé avec ses amis dans l'agro-négoce et il y a eu une journée, ils appellent ça la journée du feu, où il y a eu plein d'incendies qui ont été 3000 départs d'incendies volontaires. Et bien ça, c'est passé sur les réseaux sociaux. Et si au Brésil, c'était un peu coincé avec Bolsonaro, à l'étranger, ça a pu être porteur et ça a pu dénoncer ce qui se passait au Brésil. Donc voilà, on peut aussi, des fois, on critique les réseaux sociaux. Mais là, c'est quand même une belle façon, je trouvais, de pouvoir les utiliser et pour défendre une population, des habitudes dans un pays qui est en train de bouger, là, le Brésil.
Bah oui, les réseaux sociaux, c'est comme tout le restant, ça dépend de ce qu'on en fait.
C'est comme Ésope, comme la langue, c'est la meilleure et la pire des choses. Ça ne vous rappelle pas des souvenirs d'école, ça.
On est vraiment rattrapé par la pendule, donc il faut qu'on accélère. On passe la deuxième pause musicale et on se retrouve juste après.
Until I'm brave enough to call you, I just fall through every time. I wish I'd waved when I saw you, I just watched you passing by. So much coming through every hour too, can't get enough of you. You come around, I'm ruined. You come around, I'm ruined. You gave me no answer, nor asked me to lie. You just gave me an amethyst jeweled vest as you cried. So much coming through every hour too. Can't get enough of you. You come around, I'm ruined. You come around, I'm ruined. So basement as the fern bent to the window, and we drew to alignment as the water soaked the pillow. So much coming through every hour too. Can't get enough of you. You come around, I'm ruined. You come around, I'm ruined. So much coming through every hour too. Can't get enough of you. You come around, I'm ruined. You come around, I'm ruined.
Retour sur antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la dernière partie de son émission consacrée à la promotion et la défense des droits humains. Et on va plus spécifiquement parler dans cette dernière partie, comme vous l'avez dit au début, de notre actualité locale. Mais déjà, c'est Clearlist qui va vous donner le titre du morceau qu'elle a choisi et qu'on vient d'entendre.
Alors, le titre,
c'est Ruined. Ruined.
Alors, un grand merci à Manu du Laboratoire qui nous vous a fait découvrir il y a un mois et demi à peu près cette chanteuse, donc Adriane Lenker, et c'était juste après l'émission d'Amnesty. Je repartais en voiture et j'ai été scotchée quand j'ai entendu morceau de... Je ne sais plus si c'était ce morceau ou un autre de l'album, mais elle vient de faire un album en mars 2024, donc Adriane Lenker, et vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé.
T'as flashé
dessus. J'ai tout de suite été pour me procurer l'album, voilà. Donc là, je vais vous parler d'une censure qui ne dit pas son nom. Donc plusieurs films ont récemment fait l'objet d'attaques xénophobes sur la plateforme Allociné et sur les réseaux sociaux. Donc ces campagnes d'intimidation ciblent ainsi les financements d'œuvres engagées. Tout commence par un tweet fin octobre 2023 du compte Destination Ciné, tenu par un anonyme qui offre régulièrement à ses 25 000 abonnés des critiques ciblées contre certains films français. Celui-ci épingle les financements publics, comme celui de la région Grand Est, dont a bénéficié le film « Avant que les flammes ne s'éteignent » de Mehdi Fikri. Ce long métrage décrit la lutte d'une famille touchée par les violences policières. Les commentaires haineux pleuvent. Il y a eu une réaction en chaîne, retrace Mélanie Simon-Franza, gérante de la grande distribution qui accompagne les distributeurs dans leur stratégie de diffusion. Le film est dépeint sur les réseaux sociaux comme un navet pro-racaille, subventionné par l'argent public. Et Camélia Jordana, l'actrice principale du film de Fikri, se retrouve calomniée. L'association des acteurs actrices alerte fin 2023 sur des propos racistes et misogynes d'une extrême violence. Très vite, l'extrême droite prend le relais. L'antenne de Moselle de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qualifie le film d'hostile à la France. Et le jour de sa sortie en salle, le 15 novembre, dès minuit, le site Allociné est pris d'assaut, visité par 14 millions de visiteurs uniques de chaque mois. Et cette plateforme d'information sur le cinéma publie des critiques de la presse et du grand public. hors des centaines de messages déferlent sur le site en quelques minutes. Cela allait des commentaires négatifs aux messages racistes avec des notes extrêmement basses, de 0 à 0,5. Et c'est très grave parce que cette note hallucinée compte beaucoup pour les spectateurs, explique Mélanie Simon-Frenza. Ce type d'attaque n'est pas un cas isolé. Plusieurs films en ont fait les frais, comme Rodéo de Lola Guivoron, plongé dans le monde des rodéos urbains en moto, sorti en 2022. Une interview dans laquelle la réalisatrice évoque la responsabilité de la police dans certains accidents mortels de cross bitume et déclenche des vagues de commentaires haineux sur les réseaux sociaux, imputables à des groupes d'extrême droite selon la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, la SRF. Ces commentaires sont repris par des syndicats de police, puis par des élus de droite et d'extrême droite, jusqu'à l'émission TPMP sur la chaîne C8, animée par Cyril Hanouna. Donc, devant près d'un million de téléspectateurs, l'animateur qualifie Rodéo de merde et sa réalisatrice d'abruti, avant d'inviter à ne surtout pas se rendre en salle. Donc, la même année, Émilie Frèche, réalisatrice du film Les Engagés sur la solidarité vis-à-vis des personnes exilées, est ciblée par des commentaires xénophobes, au point d'annuler un déplacement à Saint-Brieuc face aux menaces reçues à l'annonce de sa projection. Donc ça, c'est un phénomène qui s'accélère. Et il n'est pas nouveau, parce qu'en décembre 2016, le réalisateur Luc Bellevaux achève avec son équipe le mixage du film « Chez nous » sur la montée d'un parti d'extrême droite dans le nord de la France. La bande-annonce est alors rendue publique, et le jour même, il y a eu un déluge de réactions des cadres du Front National, reprises par les militants sur les réseaux sociaux, se souvient le réalisateur. Et ce film relève de la propagande d'État. Il est financé avec l'argent public, avait lancé Nicolas Bay, eurodéputé frontiste, sur iTélé, ex-CNews. Donc épingler les collectivités qui subventionnent les films est donc une stratégie bien rodée pour l'extrême droite. L'équipe de chez nous avait aussi été confrontée aux attaques sur le site Allociné. Et dès le jour de sa sortie, on a eu des notes catastrophiques avec énormément de commentaires haineux. C'était très organisé, décrit Lucas Bellevaux. Et à l'époque, son équipe s'était sentie isolée. 3 mois après les premières attaques, nous n'avions toujours pas reçu aucun soutien d'organisation professionnelle ou de syndicat, poursuit le réalisateur. Or, ces premières victoires ont renforcé l'extrême droite dans les techniques qu'elle continue de déployer aujourd'hui. Donc 6 ans plus tard, en septembre 2023, et face à la multiplication de ces offensives, la société des réalisateurs et réalisatrices de films lance enfin une cellule de veille dédiée au sujet. Donc le but, c'est d'envisager une riposte à ce que l'on peut qualifier de bataille culturelle engagée par l'extrême droite. Parce qu'en fait, quand ils discréditent les films, et ben en fait ça discrédite aussi les financements.
Bah absolument.
Donc c'est en amont et en aval aussi.
Comme c'est des financements publics.
C'est quoi qu'il y a eu un bruit ?
Je sais pas.
C'est du côté de Titier, ça fait du bruit. Bon bref, ça discrédite les films, ça crée un climat délétère. Donc il y a moins de spectateurs qui vont voir, mais aussi ça peut faire peur aux financeurs.
Bah, bien sûr,
et donc ça prive aussi certains réalisateurs de pouvoir faire ce type de film. Donc c'est une censure qu'il faut dénoncer parce que ça bloque l'extrême droite essaye en fait d'influencer les élus et de bloquer les financements publics.
Et donc nous, pour bloquer ça, qu'est-ce qu'on propose ?
Eh bien, on propose d'aller au ciné le 23 mai.
C'est ça. Donc c'est le 23 mai et on va vous passer effectivement au cinéma Pathé ici à Évreux. Donc ce film, Avant que les flammes ne s'éteignent, dont on vient de vous parler, qui était donc victime de cette tentative de censure qui ne dit pas son nom, par l'extrême droite, pour appeler un chat un chat. Donc, effectivement, ce film est soutenu par Amnesty. Il n'est jamais passé à Évreux, donc il passera que ce jour-là. Donc, encore une fois, on incite toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir à cette soirée.
Il faut battre cette censure.
Projection débat. Le débat sera animé par les militants du groupe d'Amnesty International. Donc, il est consacré aux violences policières en France. Et c'est un film de cinéma dont la vedette, comme vous l'a dit Claire Lise, est Camélia Jordana. Et donc le film a malheureusement eu relativement peu de succès public puisqu'il a été victime de cette censure.
Si le lendemain, t'as 10 000 personnes qui mettent effectivement Allociné, c'est vraiment un site où moi je vais voir des fois, quand des films que je connais pas trop, voir un peu qu'est-ce qu'en pense le public, qu'est-ce qu'en pense la critique. Et si c'est descendu en flamme, mais bon, il faut vraiment aussi qu'Allociné, ils arrivent à avoir... une cellule de veille par rapport à ça. Parce que c'est pas normal. Si en une demi-journée, il y a 10 000 personnes qui plantent le film.
C'est fait par des robots, en fait.
Bien sûr, enfin des robots. Enfin voilà, je sais pas trop.
Donc, ouais. Quelques mots sur déjà ce que raconte le film. Donc, l'histoire, c'est à la suite de la mort de son petit frère lors d'une interpellation de police. Malika se lance dans un combat judiciaire afin qu'un procès ait lieu. Mais sa quête de vérité met en péril l'équilibre de sa famille. Voilà, c'est le thème du film. Alors, Amnesty International France soutient ce film car les thématiques abordées résonnent avec notre engagement visant à combattre toutes les formes de discrimination. De nombreuses déclarations ou conventions internationales, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme, condamnent toutes les formes de discrimination. Malgré ces textes, 1,2 million de personnes seraient victimes en France d'au moins une atteinte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. En France, la mort du jeune Naël a remis au cœur des débats les questions des règles d'utilisation par les policiers de leurs armes à l'occasion de contrôles de police et les caractéristiques trop souvent discriminatoires de l'interaction de la police avec une partie de la population. Ce film traite de ces sujets. Il questionne la relation entre police Il questionne la relation entre la police et les habitants des quartiers populaires. De nombreuses études nationales et internationales ont documenté les pratiques illégales de contrôle d'identité. Voilà. Donc après, bon, dans la présentation
venez voir,
du
allez
film,
voir le film.
Voilà.
Soutenez-le.
On va vous accueillir.
Discutez avec nous et surtout, voilà, bloquez cette censure et ce manque de liberté d'expression. C'est-à-dire que c'est quand même dangereux. Quoi.
De tolérance. Absolument.
Tout à fait. Ouais. Donc, on vous rappelle que
ce film
est diffusé au cinéma, donc Pathé, le 23 mai, donc jeudi de la semaine prochaine, à 19h15,
voilà. Et que
ce sera sa seule et unique projection à Évreux.
Voilà. Et on se retrouve dans 15 jours.
Et on se retrouve, nous, sur l'antenne de Principe Actif pour la prochaine émission d'Amnesty, mardi 28 avril. En attendant, n'hésitez pas à signer toutes les pétitions qui sont sur et à vous documenter sur le site d'Amnesty, amnesty.fr.
Puis venez au cinéma, il y aura une table de presse.
Voilà, on aura aussi bien sûr une table de presse à cette soirée le 23 mai. Et donc, on vous incite aussi, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur notre groupe, de nous contacter à evreux@amnestyfrance.fr. evreux@amnestyfrance.fr. On va laisser la place au laboratoire et on vous dit donc rendez-vous à la radio le 28 avril et au cinéma.
Non, le 28 avril.
Le 28
ouais,
mai. Le 28
mais
mai.
On est en mai.
Le 28 mai.
Fais ce qui te plaît.
Fait. Et on se retrouve au cinéma le 23 mai. J'ai dit le bon mot.
Bonsoir.
À bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.